Secret d'État, chapitre 27. Le jour où le roi s'était décidé à quitter son château et à disparaître pour un temps indéterminé, sa liaison avec Marie, sœur de Madame de Lindstein, durait depuis longtemps déjà. Le roi, je l'ai dit, était faible et il aimait les femmes. Il eut un moment de folie un soir qu'il la reconduisait de Creusac au château voisin. Marie n'avait jamais eu d'amis dans sa vie. Elle s'attacha imprudemment à cet homme tendre, si riche d'esprit, si inventif dans la câlinerie, si distrayant vraiment, et qui animait tant la vie d'une femme que les heures passées loin de lui paraissaient vides et désolées. Ce fut bientôt pour elle un besoin impérieux d'être toujours avec lui, de l'avoir tout à elle. En somme, cette même maladie de jalousie qui possédait sa sœur aînée, sa sœur étant d'autres. Une jalousie sauvage et sans merci s'éveilla dans son cœur. Madame de Lindstein, pour défendre son bien, faisait aux autres femmes une guerre farouche. Marie, ennemie insoupçonnée, lui fit une guerre aussi âpre pour lui prendre son amant et le garder tout à fait à elle. L'affection ancienne, le sentiment familial très profond qu'elle avait pour Madame de Lindstein, tout cela fut réduit à rien. Elle combattit sa rivale avec d'autant plus de succès que l'autre, ne se doutant de rien, se trouvait sans défense. Pour détourner les soupçons de la maîtresse en titre, on avait imaginé un flirt entre la jeune femme et le comte de Ehrenstein, qui, dans cette affaire, n'était que le confident du roi. Chaque soir, Ehrenstein reconduisait Marie au château de Reining. La jeune femme, en s'en allant, embrassait sa sœur, étendait la main au roi, et le sensible Charles XVI était torturé en voyant la détresse qu'exprimait le visage de Marie, navré de le laisser ainsi avec une autre. Depuis longtemps, chaque fois qu'ils pouvaient se trouver ensemble, c'était entre eux des scènes déchirantes. Elle le suppliait de l'emmener avec lui pendant quelques semaines, pour recommencer avec elle un de ces voyages qu'il avait fait jadis avec Madame de Lindstein, et dont celle-ci, avec une cruauté inconsciente, avait tant parlé à sa jeune sœur. Le roi avait passé des heures abominables à refuser d'abord, à promettre enfin, à souffrir du remords d'avoir promis. Tout ceci se passait au moment où j'étais à Schönbourg et où j'avais été présentée au roi. Les paroles mystérieuses qui s'étaient échangées entre Charles XVI et le comte de Ehrenstein le jour de mon arrivée au château, cet entretien secret, avaient trait à ces débats douloureux. Puis, comme il fallait en finir, comme il ne supportait plus cette vie, à la suite d'une scène presque tragique qui s'était passée au château de Reining, il avait, excédé, décidé de partir brusquement, en chargeant Ehrenstein de deux messages, l'un pour Madame de Lindstein, l'autre pour le baron de Herner. Le roi avait pris le train le même soir avec Marie, pendant que le malheureux Ehrenstein montait dans le landau royal que les nihilistes attendaient au passage, dans la carrière abandonnée. L'explosion avait tout anéanti. Le messager et les messages. La lettre qu'il portait à Herner, celle qu'il devait remettre à Madame de Lindstein, et où le roi indiquait à sa maîtresse qu'une raison politique mystérieuse l'obligeait à s'en aller. C'était en somme la même défaite que nous avions trouvée, le ministre et moi, quand il s'était agi de calmer les inquiétudes de Madame de Lindstein. Il allait justement, au moment où j'arrivais à Londres, écrire au ministre pour lui dire qu'il prolongeait son voyage, et mes révélations, comme bien l'on pense, modifièrent ses projets. Le baron de Herner n'eut donc pas la surprise de recevoir la lettre d'un mort. Mais il ne perdait rien pour attendre, et on lui ménageait d'autres stupéfactions. Quand le roi m'eut tout raconté, il fit venir son ami. Il l'avait prié de le laisser seul avec moi, en lui disant qu'il se passait des événements graves à Schönbourg. C'est pendant ces quelques instants qu'il me fit toutes ses confidences, comme au seul ami qu'il eut au monde. Je crois qu'il eut un grand soulagement de trouver un ami qui fût un homme. Il avait eu pendant quelques semaines, quelques moments très malheureux, et il n'avait rien osé en laisser paraître, pour ne pas gâter chez Marie la joie de l'avoir à elle sans partage. Mais lui ne supportait pas le remords d'abandonner ainsi Madame de Lindstein. Il eût voulu prendre le temps de préparer la jeune femme à l'idée de son retour à Schönbourg. Je sentis qu'il fallait être énergique à sa place. Je lui représentai que Marie était déjà préparée par ma visite. Les nouvelles que j'étais censée apporter fournissaient, pour justifier notre retour immédiat, des raisons impérieuses, et que nous ne pourrions plus retrouver les jours suivants. On fit venir la jeune femme, et le roi lui dit devant moi que le lendemain même il était obligé de retourner dans ses états. Elle le connaissait, et savait bien que si même il était disposé à rester avec elle, s'il retournait là-bas, il ne romprait pas tout de suite avec Madame de Lindstein. Elle se disait donc qu'au moins pendant quelque temps, il lui faudrait se priver de vivre avec le roi. Elle nous écouta sans mot dire, en hochant faiblement la tête, puis elle sortit de la chambre. Chapitre 28.
Qu'est-ce que vous dites, monsieur ?
Me demanda avec un fort accent allemand le baron de Gans, qui représentait à Londres l'état du Bergensland.
« Est-ce que vraiment c'est possible ? Sa Majesté serait à Londres ? Non, monsieur, je ne puis croire. »
Et il tournait dans ses courtes mains gantées de gris-perles la lettre que m'avait confiée le roi. Il se résigna enfin à l'ouvrir, et son nez écrasé se mit à soupirer d'émotion dans la touffe de sa moustache et de sa barbe.
« Oui, oui, il faut aller tout de suite au ministère des Affaires étrangères. Le ministre lui-même, je dois voir pour cette affaire. Si la jeune femme s'est tuée cette nuit, si la police est déjà prévenue, il n'y a aucun temps à perdre, monsieur, pour arrêter cela. Oui, oui, monsieur, nous l'arrêterons. » dit-il en haussant les épaules, comme si j'avais mis en doute sa puissance. « Mais la vérité, quelle surprise, monsieur, que le bien-aimé souverain soit à Londres !»
Il ajouta que certes il viendrait le voir avant une heure. Je lui dis alors que le roi préférait ne recevoir aucune visite, qu'il viendrait lui-même à l'ambassade dans le courant de l'après-midi. Mais il pria l'ambassadeur de ne dire un mot à qui que ce fût de sa présence à Londres, sauf au ministre anglais, si c'était nécessaire. J'ajoutai que sous aucun prétexte il ne fallait en référer à Schönbourg. À la vérité, Sa Majesté, tout à sa douleur, ne m'avait fait aucune de ces observations. Mais c'est moi qui avais pris cela sous ma responsabilité. Je me formais peu à peu, je prenais de l'initiative, j'acquérais des qualités d'homme d'État. Quand je rentrai à l'hôtel, je trouvai le roi à la place où je l'avais quitté, auprès du lit où gisait la jeune femme. Cette nuit même, au moment où il me reconduisait après notre conversation, nous avions entendu un coup de feu. Aussitôt qu'elle avait su qu'elle ne vivrait plus avec le roi, Marie avait couru à la mort, comme un prisonnier court à une porte ouverte. Elle n'avait laissé sur sa table aucun mot d'écrit. Elle savait très bien que l'on comprendrait. Ce n'était pas une méchante femme, mais elle voulait être heureuse à tout prix, et ce besoin avide, comme animal, d'être satisfaite, l'avait rendue coupable de toutes les cruautés. Ainsi, elle montra qu'elle n'avait pas la force de renoncer au bonheur. Ce qui sauva le roi, c'est qu'il était le roi. Mais si sa vie n'avait pas été occupée par d'autres choses que par l'amour, je crois qu'il se serait tué lui aussi, plutôt que d'aller retrouver, auprès de Madame de Lindstein, un autre remords. Mais il n'était pas un amant autant que Marie était une amante. Quand l'amour prend ces pauvres êtres désœuvrés, il les prend tout entiers. Chapitre 29. La veille au soir, je n'avais pu que parler assez brièvement au roi. Il avait lu dans les journaux les grands événements du Bergensland. Il avait eu connaissance de la convocation du Parlement, et il s'était dit que Erner agissait bien en poursuivant cette affaire avec rigueur. Comme il laissait toujours à son premier ministre une grande initiative et une grande liberté, Il ne s'était pas étonné qu'il eût utilisé, pour convoquer la haute cour, les blancs-seings qu'il lui avait laissés. À la vérité, il avait été un peu étonné de ne recevoir aucune nouvelle du ministre, car dans le message qu'il avait chargé Ehrenstein de porter au château royal, il donnait deux adresses où des télégrammes pouvaient lui être adressés par Erner en cas de besoin urgent. Il s'était dit cependant que le ministre avait dû agir avec rapidité et n'avait pas eu le temps de prendre l'ordre du souverain, dans une circonstance évidemment d'une haute gravité, mais où l'avis du roi n'était pas douteux. Erner était sûr, étant donné les idées de Charles XVI, esprit libéral, mais monarque, en somme, assez ferme, que les mesures énergiques prises par le gouvernement seraient certainement approuvées par le roi. Le silence de Ehrenstein l'avait d'autant moins surpris que le comte, d'après leur convention, ne devait écrire ou télégraphier que dans le cas d'un gros ennui. L'absence de nouvelles signifiait « bonne nouvelle ». Le roi me donna l'assurance que la peine capitale, qui serait certainement prononcée contre Tolberg, serait commuée en un bannissement perpétuel. Il ajouta qu'il prendrait telle disposition pour que Bertha pût suivre son ami dans son exil. J'emmenai le roi le plus tôt que je pus, loin des tristes souvenirs de l'hôtel Easton. Mais je comprenais bien qu'il ne pouvait pas rentrer tout de suite à Schönbourg et retrouver Madame de Lindstein, à qui il faudrait cacher toute sa douleur. Nous restâmes quelques jours à Bruxelles. Charles XVI était dans un tel état d'esprit qu'il n'eût pas toléré la vie des champs. Dans la vie des villes, sa tristesse était moins accablante. Il jouissait, malgré lui, de tout ce qu'il voyait, des hommes et des choses. Il avait une faculté singulière pour reconstituer la vie des gens rien qu'en les voyant passer. C'est cette faculté de profiter des êtres, de prendre plaisir à leurs gestes, de saisir tout leur charme, apparent ou caché, qui faisait de lui un amant si attaché, si constant et si naturellement infidèle. Sa passion était d'une clairvoyance admirable. Il distinguait en une femme toutes ces séductions qui le retenaient très sûrement à elle. Mais il était sensible à d'autres charmes pour peu qu'il s'en approchât. L'être aimé était aimé par lui mieux que par n'importe quel amant, mais il n'était pas aimé exclusivement. Ses maîtresses avaient peut-être raison de le garder aussi jalousement, comme un Turc garde ses femmes. Je me souviens qu'un soir, où il avait été particulièrement triste, il m'avait dit avec une sincérité profonde que jamais il ne goûterait plus de joie dans la vie. Ce soir-là, nous nous rendîmes ensemble dans une sorte de music hall d'été. Une petite fille de 16 ans qui vendait des bouquets s'approcha du roi, dont la tristesse se fit tout de suite un peu plus attendrie. Il la pria de s'asseoir à une table dans le jardin. Il la retint à causer avec lui pendant 1 heure, et je crois qu'il l'aurait emmenée à l'hôtel. Mais il n'osa pas, à cause de moi. Je ne voulais pas trop le presser pour rentrer à Schönbourg, mais je pensais que le procès de Tolberg devait être commencé. Je craignais qu'une fois la sentence rendue, Erner ne précipitât les choses. Qui sait même si pour se débarrasser de son ennemi, il n'était pas homme à imaginer quelque suicide. Mais le roi, à qui je fis part de mes craintes, me répondit qu'elles étaient sans fondement. « Vous ne connaissez pas Erner comme je le connais. Certainement c'est un homme que rien n'arrête, mais il est incapable d'un crime inutile. Ainsi, vous, par exemple, mon brave Humbert, il ne vous aurait jamais tué, parce qu'il avait la ressource de vous coffrer. » Rien ne l'avait tant égayé que l'histoire de ma fuite. Il répétait qu'il aurait bien voulu voir Humbert en prisonnier, et que d'ailleurs, il s'offrirait un jour cette joie-là. Enfin, une dizaine de jours après avoir quitté Londres, il me dit un matin « Nous allons rentrer à Schönbourg ». Le rapide nous y amenait le lendemain au point du jour. Nous descendîmes de la gare à pied. Le roi traversa sa bonne ville endormie. C'était la première fois de sa vie qu'il la voyait à 7 heures. En passant sur la place de l'hôtel de ville, Le roi, qui me tenait familièrement par le bras, s'arrêta. Il regarda autour de lui toutes ces vieilles maisons silencieuses. Ce n'était pas uniquement le froid du matin qui lui mouillait les paupières. Charles XVI aimait bien son vieux Schönbourg. La sentinelle du palais ne reconnut pas cet homme de forte taille qui rentrait à cette heure matinale, le col de son ulster relevé. Nous montâmes jusqu'à ma chambre, qui était telle que je l'avais laissée. Le roi trouva qu'on m'avait mal logé. Comme il restait de l'eau dans le pot à eau, Sa Majesté se débarbouilla. Puis, pendant que le palais dormait encore, nous descendîmes tous les deux dans mon cabinet, dont je fermai soigneusement la porte. C'est là que le roi, sans être vu, devait attendre l'arrivée de Erner. Comme il était fatigué, il s'étendit sur un canapé où il sommeilla, tandis que, trop énervé pour dormir, je m'asseyais à mon bureau, et je commençais machinalement à dépouiller les piles énormes de journaux qui, en mon absence, s'étaient amoncelées sur ma table. Vers 6 heures, j'entendis le bruit des garçons de bureau qui arrivaient. L'un d'eux ouvrit la porte du cabinet de Erner et s'en vint jusqu'à la porte du mien. Mais je lui criai que je m'étais enfermé pour travailler et qu'il ferait le cabinet plus tard. Vers 9 heures, je me mis à la fenêtre et je guettais impatiemment la venue de Erner. Le roi s'était levé et s'était mis à mes côtés, et nous vîmes ensemble le premier ministre qui traversait la cour et se dirigeait vers le perron d'entrée, d'où il s'apprêtait à gagner innocemment son cabinet. C'est là que l'attendait une surprise considérable. De Londres, j'avais écrit à Erner une seconde lettre où j'expliquais que mon absence serait un peu plus longue que je n'avais prévu. Je suis sûr que le ministre n'avait pas cru à mon histoire et qu'il était bien persuadé que j'avais voulu fuir. J'avais laissé le roi dans mon petit bureau et je m'installai dans le cabinet du ministre. Quand il ouvrit la porte, il eut un sursaut d'étonnement. Ma rentrée bouleversait évidemment toutes ses prévisions. Il se remit assez promptement pour me dire « Ah, vous voilà de retour !» et me tendre la main avec une parfaite aisance. « Monsieur le ministre, lui dis-je avec une certaine émotion, je suis revenu encore plus tôt que je ne pensais. C'est que je venais de réclamer de vous l'exécution d'une promesse. » Il semblait m'écouter distraitement et classer des papiers avec attention. « J'ai vu, continuai-je, que le comte de Tolberg avait été jugé et condamné. Vous m'avez dit que, pour le principe, vous teniez à avoir une condamnation contre lui. Mais vous m'avez promis qu'après la condamnation, vous prendriez en sa faveur une mesure de clémence. » Il sembla regarder, avec une application scrupuleuse, des papiers quelconques qu'il était en train de ranger. « Sans prendre aucun engagement, » répondit-il au bout d'un instant. « J'ai dit, et je répète, que je ferai mon possible pour vous donner satisfaction. Dès demain, je réunirai les ministres, et nous verrons si nous pouvons remettre le dossier à la Compagnie des Grâces. Je pense qu'avec mon appui, ce sera chose faisable. » « Monsieur le ministre, lui dis-je, excusez-moi si je réclame de vous une promesse plus formelle. » J'avais pris un ton ferme que je ne me connaissais pas. Ah, je n'avais pas peur de parler à un ministre quand j'avais un roi derrière moi. Il fut étonné de cette assurance. Il me regarda et me dit, avec une certaine hauteur, que je n'avais qu'à me fier à lui. Et il se demandait de quel droit... Je répondis que ce droit, je le tenais de lui-même. Il avait bien voulu m'honorer de sa confiance en me faisant le dépositaire d'un certain secret. Il y avait bien longtemps qu'il m'avait compris, mais il attendait pour se mettre en colère que je me fusse expliqué nettement et sans équivoque. Maintenant, il était forcé de comprendre. « C'est ce qu'on appelle du chantage, » me dit-il. Et je vis s'allumer dans ses yeux ce même éclair de sauvagerie et de brutalité qui les faisait briller quand il parlait d'un de ses ennemis, la princesse Elsa, par exemple. Il était maître de laisser ou de ne pas laisser pénétrer la colère en lui.
mais aussitôt qu'elle y entrait, il en était saisi tout entier.
« Chantage ou non, répondis-je, je désire avoir de vous, monsieur le ministre, la promesse que je vous ai demandée. »
« Vous n'aurez rien, me dit-il, je ne cède pas aux menaces. »
Je restai un moment sans rien dire. J'étais maître de mon coup de théâtre. J'avais demandé au roi la lettre de grâce de Tolberg et je n'avais qu'à l'attendre à Erner. Il serait confondu, comme dans ces mélodrames où le traître vaincu courbe la tête et se jette ensuite dans un précipice en criant « Vous ne mourrez pas vivant !» Mais la vérité, c'est que c'était assez de comédie et que je sentis malgré moi, à ce moment, une sorte de respect pour cet homme qui méritait sans doute qu'on se vengeât, mais non qu'on se jouât de lui. Et je sentis aussi qu'en apprenant que son souverain était encore en vie, il allait éprouver une grave émotion. De sorte que je ne lui dis plus rien des choses dramatiques que j'avais préparées et que les larmes me vinrent aux yeux, malgré moi. Je lui mis la main sur l'épaule et lui criai, la gorge serrée, le plus vite que je pus. « Le roi est vivant, il est là !»
Chapitre 30. Vous voilà, usurpateur, avait dit sa majesté. Le ministre et son roi s'étaient regardés en silence, et j'avais compris en les voyant quel lien profond les unissait auprès de ce Bergensland, dont l'un avait la garde héréditaire et à qui l'autre s'était consacré. Le roi vivant, il ne restait de la culpabilité de Erner que l'histoire de quelques faux dont on ne parla point. Une personne de plus était dans la confidence et connaissait la conduite audacieuse du premier ministre. J'aimais mieux cela. Quand j'étais seul avec Erner à porter ce secret, je trouvais qu'il pesait un peu lourd sur mes épaules. Madame de Lindstein apprit avec une grande douleur la mort de sa sœur et de son ami Ehrenstein, victime d'un accident d'automobile en Angleterre. Ainsi que le roi l'avait promis, la peine de Tolberg fut commuée en un bannissement. On ne pouvait pas gracier complètement un homme dont la culpabilité était aussi indéniable. Mais la clémence royale n'avait pas dit son dernier mot. Un jour d'oubli viendrait où l'on pourrait faire mieux. En attendant, Charles XVI fit connaître officieusement à la Chambre des divorces qu'il était favorable au divorce de Bertha. Sa Majesté eut la bonté de distraire de sa cassette privée une somme de 25 000 livres dont il me faisait soi-disant présent et que je remettrais en mon nom propre à Tolberg pour l'aider à vivre à Paris jusqu'au jour où sa famille s'humaniserait. Le roi connaissait à peine Tolberg et s'intéressait d'une façon très superficielle au malheur de Bertha, mais il se plaisait beaucoup à me faire plaisir. Jamais banni ne s'embarqua si joyeusement pour l'exil que le comte de Tolberg. Bertha ne prenait pas le train en même temps que lui pour ménager les apparences, mais elle devait le rejoindre à Erstadt, la première station du rapide. Quand j'accompagnais mon ami à la gare, il m'apprit comment il avait remplacé, au dernier moment, celui des conjurés que le sort avait primitivement désigné et qu'une maladie avait rendu indisponible. À quelques jours de là, je fus mandé au château de la princesse Elsa et je m'y rendis avec un certain frémissement. Je savais que c'était une jeune femme. On m'avait bien dit qu'elle n'était pas très jolie, mais c'était une princesse. Et j'avais fait souvent ce rêve fantaisiste et inavoué qu'il se passerait quelque chose entre elle et moi. Mais elle était décidément trop courte, trop rouge de teint et trop duvetée sous les joues et dans le cou. Elle me dit qu'elle avait causé avec le roi et que je lui serais très agréable si je voulais me charger de l'éducation des jeunes princes. Bolmoller avait perdu toute espèce de prestige aux yeux de ses élèves. On l'avait nommé, je ne sais pas quoi, inspecteur général de quelque chose d'insignifiant. L'éducation de l'héritier présomptif entre mes mains, c'était une grande sécurité pour Erner, qui, ainsi, ne craignait plus les menées des Bavarois. Tout va désormais paisiblement à la cour et chez Madame de Lindstein. Le roi, très assagi au point de vue sentimental, s'occupe un peu plus des affaires publiques et continue à guerroyer contre l'autoritarisme de son premier ministre. Mais il prétend que Herner fera un jour un libéral excellent, de même que les anciens libéraux font d'excellents ministres autoritaires. « Il est bon, me dit le roi, d'avoir pratiqué les deux opinions. »